Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi.
7h30, tout info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce 4 janvier. Bonjour Isabelle.
Bonjour Yves, bonjour à tous. Et en ce 4 janvier, je vous propose de vous pencher un peu plus attentivement sur le calendrier de l'année 2019. Oui, il n'est jamais trop tôt pour penser à vos futurs RTT pour les ponts ou les week-ends à rallonge. Bonne surprise Christophe Ponzio, en 2019, on va travailler un jour de moins.
Exactement, un jour de travail en moins, 7 heures de temps passé à la maison en plus, avec d'abord une belle moisson de week-end de 3 jours en perspective. Il y en aura 4 cette année, un de plus qu'en 2018, grâce au lundi de Pâques, le 22 avril, le lundi de Pentecôte, le 10 juin, la Toussaint, le 1er novembre, qui tombe un vendredi, et le 11 novembre, qui ne sera pas un dimanche comme l'an dernier, mais un lundi. En revanche, coup dur pour les ponts cette année. Ils se réduisent comme peau de chagrin, puisque l'on passe de 5 week-ends à rallonge à 2 seulement pour 2019. Les adeptes des RTT ne pourront en poser qu'au moment du 15 août, qui tombe un jeudi, et un peu avant pour l'Ascension, le 30 mai. Les fameux ponts de mai, justement là, c'est la douche froide, car le 1er et 8 mai tombent un mercredi, pas de pont ou de viaduc à prévoir, juste une journée de repos à passer avec vos éventuels enfants. Pareil pour Noël d'ailleurs, avec là encore un mercredi férié. Enfin, pour les festivités du 14 juillet, elles auront lieu un dimanche, un jour férié, un dimanche, vous l'aurez compris, ça n'a pas grand intérêt pour les salariés.
Un jour de travail en moins, donc c'est très réjouissant pour les salariés, mais ça n'est pas forcément très bon pour l'économie. Oh. Quel impact sur la croissance? Question posée à l'économiste Éric Heyer de l'OFCE.
C'est pas catastrophique pour l'économie parce que ça représente au maximum 0,1 point de PIB, mais le plus vraisemblable, c'est que ça coûte à l'économie française 0,02 point de PIB. Donc c'est vraiment de l'épaisseur du trait. C'est un choc qui est anticipé et qui a été anticipé dans les prévisions du gouvernement lorsqu'il a voté son budget pour 2019. Les entreprises ont également anticipé ce calendrier. On s'inquiète pas parce que de toute manière, 2020 va être une année bissextile et donc du coup, on va rattraper ce petit 0,02 l'année prochaine.
Éric Heyer avec Christophe Ponzio du service économie d'RTL. Elle a été battue pendant des années et finalement défenestrée par son compagnon, ce qui l'a laissé paraplégique. Pourtant, Aïda ne sera pas totalement indemnisée. La commission d'indemnisation considère en effet qu'elle est en partie responsable de ce qui lui est arrivé car elle n'a pas quitté son foyer. Décision incompréhensible pour la secrétaire d'État à l'égalité Marlène Schiappa qui compte bien intervenir.
RTL Matin 7h33.
Il avait été interpellé mercredi soir. Éric Drouet donc sorti de garde à vue hier après-midi.
Le gilet jaune qui voulait marcher sur l'Elysée a été arrêté pour une manifestation non déclarée. Pour cela, il sera jugé le 15 février et il reviendra au tribunal en juin car il avait déjà été interpellé le 22 décembre pour port d'armes prohibées. À l'issue de sa garde à vue, il a dénoncé une procédure disproportionnée.
Pas de manifestation, rien, pas de gilet jaune. On a respecté du début à la fin de la soirée toutes les règles et c'est très énervant qu'on puisse même pas circuler dans la rue librement. Donc ça dérange. Et la façon dont c'est fait, c'est politique. On cherche à nous mettre des responsabilités sur le dos alors qu'il n'y en a pas du tout.
On ne peut pas circuler, dit Éric Drouet. Réponse d'Yves Lefebvre, le secrétaire général du syndicat Unité SGP Police.
Je ne vois pas en quoi il y a une entrave aux libertés publiques. Simplement, il y a un texte de loi qui prévoit que la manifestation est bien évidemment autorisée en France, dès lors qu'elle fait l'objet d'une déclaration préalable. Bon, il a fait l'objet tout simplement d'une mesure de garde à vue inférieure à 24 heures, avec bien évidemment derrière une convocation devant un tribunal courant février où il devra répondre de la manifestation. Tout est proportionné. Les policiers n'ont fait que leur travail en application des lois de notre République.
Propos recueillis pour RTL par Thomas Proutot. Cette garde à vue intervient deux jours avant l'acte 8 des Gilets jaunes programmé pour samedi. À cette occasion, le groupe La France en colère publie une lettre ouverte adressée à Emmanuel Macron. C'est précisément le groupe emmené par Éric Drouet et Priscilla Ludowski. Ils appellent à se rassembler samedi à 14h à l'hôtel de ville de Paris pour une manifestation qui doit s'achever devant l'Assemblée nationale. Et le gouvernement a visiblement choisi la ligne de la fermeté. Olivier Bois.
Oui, exactement, avec une stratégie en deux mouvements. D'un côté, insister sur le fait que le mouvement est en déclin. Le ministre de l'Intérieur le rappelait cette semaine. 32 000 gilets jaunes samedi dernier, deux fois moins que le week-end précédent. Et de l'autre côté, c'est vrai, afficher une fermeté face à ceux que, clairement, les autorités considèrent comme les irréductibles. La garde à vue d'Éric Drouet en est une illustration. La semaine dernière, Christophe Castaner a par ailleurs envoyé un message à tous les préfets pour leur demander de faire en sorte que les derniers ronds-points occupés soient évacués. Il en reste à peu près une d'une centaine aujourd'hui. La crainte sous-jacente, on le comprend, c'est que le mouvement ne reparte. On voit que les Gilets jaunes tentent de mobiliser pour ce week-end, promettent, espèrent en tout cas un rebond après la période des fêtes. De ce point de vue-là, on verra effectivement demain sur les différentes manifestations et notamment sur le cortège parisien.
Merci Olivier Bois du service police-justice d'RTL. Dans leur lettre ouverte, les Gilets jaunes en colère expriment de nouveau leur défiance envers Emmanuel Macron. Ils refusent de participer au grand débat national promis par le président et réclament la nomination d'une personnalité respectable, disent-ils, pour discuter de la reprise de souveraineté du peuple. C'est dire si les vœux du chef de l'État n'ont pas convaincu les manifestants. Ce matin, c'est au tour du gouvernement de présenter ses vœux au président. Avant cela, il y a petit déjeuner au ministère de l'Intérieur, puis le premier conseil des ministres de l'année. Et dans la journée, une annonce déjà repoussée deux fois, les tarifs des péages d'autoroute devraient augmenter d'1,8 à 1,9%, sujet sensible en cette période de fièvre jaune.
Sur la situation politique du pays, nous reviendrons à 7h45 avec Sébastien Lecornu, ministre chargé des collectivités territoriales.
Aux États-Unis, la donne a changé. Le nouveau Congrès américain s'est réuni hier pour la première fois. Et maintenant, la Chambre des représentants est à majorité démocrate, alors que le Sénat reste acquis aux républicains. C'est le grand retour de Nancy Pelosi, de nouveau élue présidente de la Chambre et désormais première opposante à Donald Trump, notamment au sujet de ce mur que le président américain veut à tout prix construire à la frontière avec le Mexique.
Nous ne construirons pas de mur. C'est non seulement immoral, mais c'est un gaspillage d'argent sous couvert de vouloir protéger le peuple américain. C'est une tactique de diversion de la part du président. Et maintenant, il veut se servir du shutdown du gouvernement pour prendre en otage les fonctionnaires, mais également tous ceux qui profitent de leur service. Nous essayons de rouvrir les administrations. Nous lui offrons une solution rationnelle pour le faire.
Et faute d'accord sur le budget qui inclut le financement de ce mur, les États-Unis sont en shutdown depuis presque deux semaines maintenant. Toute l'administration fédérale est paralysée. Les Chinois sont toujours les plus nombreux dans le monde, mais pour la première fois depuis 70 ans au moins, la population a baissé l'an dernier. Petite baisse d'1,2 million sur près d'1,4 milliard d'habitants. Pourtant, la politique de l'enfant unique a été abandonnée. Explication à suivre tout à l'heure dans le journal de 8h.
RTL Matin, 7h37.
Les défenseurs des animaux sont très fâchés ce matin. La chasse à la glu est toujours autorisée.
Cette technique traditionnelle consiste à capturer des oiseaux avec des tiges de bois enduites de colle. Elle est interdite depuis 10 ans par une directive européenne. Mais en France, 5 départements du Sud-Est ont obtenu des dérogations. Hier, le Conseil d'État a rejeté la demande d'interdiction déposée par la Ligue de protection des oiseaux. Son président Alain Bougrain-Dubourg est déterminé à saisir la justice européenne.
C'est une chasse barbare. Incontestablement, les oiseaux englués se débattent en agonisant et c'est inacceptable, c'est féodal, ça doit disparaître au XXIe siècle. Ensuite de ça, c'est non sélectif, c'est-à-dire que si cette capture vise les grives et les merles, en vérité, ça touche quand même de la vie même des piégeurs. Près de 43 000 oiseaux capturés, sans parler évidemment de ceux qui sont protégés et qu'on ne déclare pas. Donc ça n'est pas acceptable.
Alain Bougrain du Bourgeois pour RTL par Virginie Garin. Le foot début ce soir des 32e de finale de la Coupe de France avec l'entrée en lice des clubs de Ligue 1. C'est Nantes qui va ouvrir le bal à 20h55 contre Châteauroux. Et à la même heure, Grenoble reçoit Strasbourg. Grenoble qui est coaché depuis l'été dernier par Philippe Hingeberger, un entraîneur qui n'hésite pas à pousser la chansonnette pour donner du cœur à l'ouvrage à ses joueurs.
Pour atteindre les sommets, on ne s'interdit pas de rêver. Qui sait où cette aventure peut nous mener?
Après, c'est pas en faisant trois accords de guitare qu'on gagne des matchs non plus, mais simplement c'était l'objet de montrer aux joueurs que voilà, on se dégonfle pas et qu'ils veulent qu'on chante, ben on chante, mais en plus on le fait avec quelque chose de différent. Sachez qu'en 1989, j'ai accompagné Francis Cabrel sur Je l'aime à mourir. C'était à Metz, j'étais encore joueur et je jouais avec lui. Voilà, c'était un super souvenir.
L'étonnant entraîneur de Grenoble au micro RTL de Serge Puyot. Le gros morceau de ces 32e de finale, hein, ce sera Toulouse-Nice dimanche. Le PSG, lui, démarrera en douceur face au GSI Pontivy.
Et on refait la Coupe de France ce soir sur RTL de 20h à 22h. C'était le Tout Info avec Isabelle Choquet. On se retrouve à 8h40 pour la revue de presse.
Et on va sortir en boîte, préparer la boule à facettes.
Oh, à tout à l'heure.
Youhou.